Journal de rhizome. Calendrier organique en 13. Archives papier conservées à la bibliothèque du Courvadis. Je suis arrivée à l'âge où l'on peut dire « j'ai eu de la chance ». Parce que quoi qu'il m'arrive, aujourd'hui, de quelque façon que je meure, et même si je souffrais les pires peines, rien ne pourrait plus changer cela. C'est comme lorsqu'on dépouille les votes dans une élection. Les derniers bulletins ne comptent pas. Le résultat est déjà là, avant la fin. Il y a dans la vie humaine un tel point de bascule où la balance se met à peser d'un côté ou de l'autre. J'ai atteint l'âge de 91 ans. Dans l'espace, cela correspond à une probabilité de 3%. J'ai été le capitaine du Courvadis, 1 sur 15 000. Quelle était la probabilité de trouver une planète habitable dans la durée de mon existence? Peut-être une chance sur 1 million. Si on multiplie ces probabilités, cela fait un calcul vertigineux. J'ai eu tellement de chance que j'ai du mal à y croire moi-même. Peut-être que c'est cela que les gens, de l'extérieur, appellent un destin. Il y avait une phrase dans l'une des anciennes religions. « À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. » Je me demande, avant de mourir, ai-je donné suffisamment en retour? Chapitre 18. Veillée. Calendrier organique, en 589. La nuit était déjà avancée. Tout le clan de la pluie était rassemblé depuis la tombée du jour, et les bavardages, les senteurs épicées, les rires qui montaient de la foule, ressemblait à ceux d'un soir de fête. Pluie pourtant sentait dans sa chair une douleur clanique particulière. Ce n'était pas un tatouage précis qui lui faisait mal, elle éprouvait plutôt une gêne sur l'ensemble de sa peau. Le clan était anxieux et sa clé de voûte ne s'y trompait pas. Comment au reste ne l'aurait-il pas été? Ces hommes, porteurs de mort, avaient réclamé le Courvadis et au-delà ils avaient annoncé la mise sous tutelle de l'organe. Le refus que le Conseil des Clés avait opposé à la sonde avait été accueilli par des exclamations de fierté, mais l'orgueil avait un prix, et ce prix était souvent celui du sang. Ce que Pluie s'apprêtait à faire, personne ne l'avait jamais fait. Il n'y avait pas de raison théorique pour que cela ne fonctionne pas. La distance spatiale, en effet, n'entravait en rien la circulation psychique, et cela avait été vérifié de nombreuses fois. Mais il y avait tant d'accidents possibles, tant d'aspérités dans le réel, tant d'inconnus dans ce terrain où elle s'aventurait. Elle considéra son clan nombreux, prospère, qui constituait un réservoir immense d'énergie psychique. Mais cela suffirait-il? Au Conseil des Clés, elle avait expliqué son intention, et la question de la participation des autres clans avait été soulevée. Il était en effet techniquement possible qu'une clé utilise une autre clé, et donc tout son clan avec elle pour accroître sa puissance. Il suffisait pour cela que les deux clés se lient par l'aiguille. Mais Rhizome, en jetant les bases de la société de l'organe, avait proscrit toute structure pyramidale. Chaque clé de voûte devait être indépendante, et les liens entre clés avaient été proscrits. Les deux arguments de Rhizome étaient développés dans un texte célèbre que tout le monde connaissait sur l'organe. Tout d'abord, il y avait le risque d'une dilution de la responsabilité et de la solidarité. La clé suprême pourrait difficilement ressentir les douleurs claniques de la clé qui lui serait inféodée avec la même intensité et la même précision que les siennes propres. De ce fait, le risque que le chef redevienne indifférent à la souffrance d'une partie de son peuple ressurgissait. Deuxièmement, il fallait à tout prix éviter une structure concentrant les pouvoirs en un seul. Si les liens entre les clés étaient autorisés, rien n'empêcherait une clé de prendre l'ascendant sur toutes les autres. Aucun contre-pouvoir ne serait de taille à lutter contre une telle masse d'énergie psychique. Cette dérive était presque aussi dangereuse que la première. L'égalité des clés était en effet le fondement de la démocratie organique. Il avait donc été décidé que si d'autres clans devaient se subordonner à Pluie ce soir-là, les clés qui se dévoueraient pour cette opération devraient ensuite renoncer à leur statut, couper le lien avec leur clan et vivre ensuite comme simples membres du clan de la pluie. La question avait été posée à tous, et aucune voix ne s'était proposée tout d'abord, si bien que Pluie s'apprêtait à reprendre la parole quand Foudre s'était levée. j'accepte de prêter assistance à Pluie, au nom de l'intégrité de l'organe. Le clan de la foudre se prêtera ce soir à l'offensive contre la sonde et sera dissous demain. Pluie avait été surprise de cette décision. Foudre lui avait toujours paru une clé très prometteuse et elle aimait avoir en elle une version plus jeune d'elle-même. Elle aurait aimé la voir évoluer, agrandir et gérer son clan, et pouvoir compter sur la justesse et l'originalité de ses vues lors des séances du conseil. Mais c'était sans doute la justesse de ses vues qui justement la poussait aujourd'hui à ce sacrifice. Elle seule, peut-être parce qu'elle s'intéressait depuis toujours à la Terre, avait pu prendre la mesure de ce qui arrivait. Et Pluie n'ignorait pas que dans son sacrifice, le plus difficile était celui de Michael Strauss. Foudre avait agi avec tant de ferveur qu'elle n'avait pas eu le temps de penser. La décision s'était imposée d'elle-même, comme la seule possible. Refuser les conditions de la sonde, c'était choisir la violence. Elle le savait depuis le début. Et elle savait aussi qu'il n'était pas envisageable de les accepter, parce qu'elles étaient indues, iniques, terriblement violentes en elles-mêmes. C'était la sonde qui portait la responsabilité de la violence première. La sonde qui avait agi en conquérant et décrété que les autochtones devraient se soumettre. La non-réciprocité dans les rapports était une violence. C'était la violence fondatrice. Les gens de la foudre avaient protesté, mais Foudre n'avait pas eu besoin de leur rappeler leur serment. Il la suivait maintenant, taciturne, en direction du rassemblement de la pluie. Foudre n'avait pas expliqué les choses en détail. Elle avait juste évoqué la nécessité de détruire la sonde avant qu'elle ne nous détruise. Bien sûr, il souffrirait un peu du changement de clé, mais nul n'était irremplaçable. Quelqu'un d'autre prendrait la relève et leur souffrance serait passagère. Quand ils arrivèrent, les deux clans se mélangèrent un peu, mais cette étrange atmosphère qui pouvait ressembler à celle d'une fête cessa brusquement. « As-tu bien réfléchi à ce que tu t'apprêtes à faire ?» demanda Pluie à Foudre avec tendresse. « Personne d'autre ne s'est proposé, Pluie, et il faut que cela soit fait. » « Ce sont là les paroles d'un chef, » dit la vieille femme. Elles se préparèrent, sous le regard consterné du clan de la foudre, pour se lier par l'aiguille. Pluie s'était dévêtue pour l'offertoire et exhibait maintenant son vieux corps tout orné de tatouages. Les plis de la peau par endroits les rendaient illisibles. Foudre regarda les membres du clan de la pluie se diriger vers leur clé et la toucher avec un profond respect, presque comme on touche un mort. Certains dépliaient précautionneusement les plis du ventre ou de la poitrine pour retrouver l'intégralité de leur symbole. Un tout jeune homme était chargé de l'aiguille et la préparait d'une main experte. Pluie, dont le corps n'avait plus un pouce carré de vierge, tendait déjà sa langue. La cérémonie pouvait commencer. « J'accepte de prendre sur moi ta douleur, » dit Pluie. « Que l'aiguille qui te transperce marque aussi mon corps. » L'aiguille, silencieuse, piqua la nuque, les deux tempes, les deux flancs et les chevilles de foudre. Il était étrange de jouer à nouveau cette scène éternelle, mais en endossant l'autre rôle. « Je renonce au secret, » dit Foudre. La douleur, à partir de cet instant, fut légèrement atténuée. Foudre la ressentait toujours, mais c'était comme de flotter dans une eau très salée. Quelque chose vous portait, vous aidait à surnager et à maintenir la tête hors de l'eau. « Je renonce à l'indifférence. Je ne me lierai par l'aiguille à aucun autre. Je couperai les liens déjà formés. » À cette évocation, Foudre ressentit un grand vide et une onde de panique que quelque chose vint calmer de l'extérieur. « Je renonce à nourrir des enfants de mes seins et renonce au cordon qui m'a donné la vie. » Foudre se laissait guider par la voix de pluie. Elle imaginait les enfants auxquels elle pourrait maintenant donner le jour. « Je pourvoirai à tes besoins et te déchargerai des soucis matériels. Je veillerai sur ton bien-être. Je respecterai tes décrets et me plierai à ta gouvernance. Je n'abuserai pas de mon pouvoir. Je te prêterai la force de mon esprit lorsque tu en auras besoin. » Cette force immense appartenait déjà à Pluie. Foudre se démettait de sa propre puissance. « L'équilibre du clan sera ma seule boussole. Je serai ton corps, tes mains, ton bras, tes jambes. Je serai ton courage et ton secours. » C'était fini. pluie avait sur la langue le tatouage de la foudre. Elle s'approcha de la jeune femme et la serra dans ses bras. « Comment va ta langue, pluie ?»«
Elle est brûlante et ma salive a un goût amer. Je ressens ta peur et l'arrachement de ton sacrifice. Je les ressens alors que personne ne peut les voir. »
Quand je serai heureuse, pluie, je t'offrirai un goût de miel, je te le promets.
Pluie sourit, tristement. Es-tu suffisamment forte pour commencer dès maintenant ? Demanda Foudre.
Oui. Alors, à la lueur des torches et des étoiles, parmi la forêt bruissante de nuit, Foudre se mit à l'unisson de son clan pour la dernière fois. Elle sentit jaillir en elle la puissance tellurique. Pour la dernière fois, elle commanda ce cœur innombrable et sublime comme un firmament. Puis elle regarda Pluie, qui se mit à son tour à l'unisson de son clan, et Foudre se sentit happée, dissoute, dans un flot d'une extraordinaire puissance. Avant de perdre toute conscience d'elle-même, elle eut un pincement au cœur en pensant à Michael Strauss, perdu là-haut, dans sa barque de métal, à son amour pour elle, si pur, si lointain et si inaccessible, et au doux contact, envolé à tout jamais de sa paume sur son corps.